Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, le gaz est au cœur des conflits actuels au Moyen-Orient, qu'ils soient régionaux ou locaux. De la Syrie à l'Égypte, en passant par le Qatar, Israël et l'Iran, l'enjeu gazier est primordial et explique bien des alliances politiques ou militaires. Et la récente découverte de gisements en Méditerranée orientale pourrait rebattre les cartes de certaines relations régionales, notamment entre Israël et certains pays arabes. Enfin, la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie pourrait avoir un impact sur les exportations de gaz vers l'Europe et de nouvelles voies d'acheminement pourraient voir le jour. Tout cela sans que les populations des pays concernés y trouvent un quelconque intérêt, y compris en matière d'approvisionnement d'énergie individuelle. C'est en tout cas la conclusion à laquelle parvient David Amselem, spécialiste de ces questions énergétiques au Moyen-Orient. Parole de femme, ce samedi 8 mars leur est consacré, et Nehmat El-Matari de Monte Carlo d'Oualia a recueilli les témoignages de femmes de différents pays du Moyen-Orient tout au long des émissions qu'elle a animées et diffusées cette semaine. Nehmat est avec nous en studio. À suivre également la revue de presse hebdomadaire « Regards croisés sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Va-t-on vers une nouvelle donne énergétique au Moyen-Orient ? Entre la levée partielle des sanctions contre l'Iran et la découverte d'un vaste gisement de gaz en mer Méditerranée orientale, de nouvelles alliances apparaissent, de nouveaux moyens de pression également, et les enjeux économiques nouveaux changent la nature des enjeux politiques locaux, voire régionaux. Nous en parlons avec David Amselem, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut français de géopolitique à Paris, auteur de « La guerre de l'énergie, la face cachée du conflit israélo-palestinien » aux éditions Vendémiaire. David Amselem, Israël se voit désormais en exportateur de gaz après la découverte d'un important gisement au large de ses côtes. C'était en 2010. Est-ce bien raisonnable ? Et si oui, quelle pourrait être la route d'exportation de ce gaz israélien ?
Pour l'État d'Israël, la découverte de gisements de gaz naturel au large de ses côtes est une très bonne nouvelle. Dans un premier temps, ils vont l'utiliser pour une consommation interne et un peu plus tard, envisager de l'exporter. Les projets d'exportation sont un peu longs à mettre en place, mais c'est clairement dans l'objectif de l'État d'Israël d'exporter. C'est une très bonne chose aussi, ça va ramener des devises au sein de l'économie israélienne. Il y a des débats internes sur justement la répartition entre les compagnies et l'État, c'est un autre débat. Par contre, il faut se méfier parce qu'il ne faut pas tomber dans une sorte de malédiction israélienne où l'État d'Israël ne miserait que sur sa rente énergétique et ne développerait pas d'autres secteurs d'activité.
On voit bien où est situé ce gisement. Il est en Méditerranée orientale. Il y a aussi des voisins. Il y a notamment les Palestiniens qui peuvent prétendre à une partie de cette manne. Comment voir les choses ?
Le problème de ce gaz israélien, c'est qu'il se situe aux deux extrémités de la zone économique exclusive israélienne. Au sud, effectivement, il y a un gisement qui est à cheval avec la frontière maritime palestinienne. Et au nord, ce sont les plus gros gisements, on est à cheval avec la frontière maritime libanaise. Dans les deux cas, ça pose des problèmes. Avec les Palestiniens, par la nature de l'autorité palestinienne et les conflits en interne entre le Hamas et le Fatah, c'est un problème qui n'en est pas un qui peut être réglé sans grande difficulté. Le vrai problème diplomatique se pose au nord avec la découverte de Tamar et surtout de Léviathan, les deux grands gisements d'Israël. Et là, le Liban a revendiqué une partie de ces gisements. Ce n'est plus le cas. Parce qu'ils sont, depuis quelques mois, ils ont bien compris que ces gisements étaient en Israël, sauf qu'ils revendiquent une partie du territoire maritime d'Israël, là où rien n'a encore été découvert, mais dont tous les experts estiment que de probables réserves peuvent être découvertes dans cette zone-là. Le Liban a déjà fait savoir, et même le Hezbollah, la milice chiite, qui a fait savoir que si Israël forêt dans ces eaux-là, ça pouvait déclencher un conflit, donc il y a une tension, et d'ailleurs, aucune compagnie pour le moment ne s'y aventure.
Alors, dans le Sinaï, il y a régulièrement des attaques d'islamistes, de djihadistes, notamment contre un gazoduc qui est égyptien et qui va notamment en direction de la Jordanie. Est-ce que ça, ce n'est pas une opportunité, en fait, pour le gaz israélien ?
Oui et non. Déjà, sur les attaques, elles viennent de la part d'islamistes, c'est vrai, mais on a aussi, pendant une partie de ces attaques, la majorité des attaques viennent de groupes bédouins, et ce serait plus un problème interne à l'Égypte, une rivalité entre le gouvernement égyptien et les bédouins du Sinaï, avec un rapport de force pour plus de revendications. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les bédouins et les islamistes mettent le doigt sur quelque chose d'extrêmement sensible, c'est l'exportation de gaz via l'Arab Gas Pipeline. En fait, c'est un gazoduc qui a été créé au début des années 2000. C'était lorsque l'Égypte a découvert beaucoup de gisements dans le delta du Nil, ils se sont lancés dans un vaste programme d'exportation. C'est ce qu'ils ont fait très bien. Et le problème, c'est que en faisant exploser le gaz ici, on a souvent cru que c'était pour pénaliser Israël, alors qu'en réalité, ça pénalisait surtout l'Égypte et tous les pays de la région, la Jordanie, le Liban, qui n'étaient pas, qui ne recevaient plus les quantités de gaz prévues. Est-ce que c'est une possibilité pour Israël? Oui, si on part du principe que d'autres États arabes de la région sont intéressés pour importer du gaz israélien. C'est quelque chose qui est un peu compliqué, pas forcément avec tous les acteurs. L'autorité palestinienne a clairement fait savoir qu'ils étaient intéressés. La Jordanie aussi, et il me semble que là, il faudrait vérifier, mais des accords sont en cours. Avec le Liban, c'est beaucoup plus compliqué, la Syrie aussi. Donc, c'est une affaire à suivre.
Alors, l'autre grand pôle de production, d'extraction de gaz, c'est évidemment le gaz iranien. Enfin, je devrais dire irano-qatari. Là, autre problème, à qui appartient ce gisement? Il est à cheval sur les deux. Et surtout, la fin des sanctions, ou en tout cas la fin temporaire des sanctions contre l'Iran, risque-t-elle de changer les choses?
Alors, le gisement dont vous parlez, c'est le méga gisement qui s'appelle, il me semble, North Dome. Et en fait, c'est, il me semble de mémoire que c'est le plus grand gisement de gaz naturel du monde. Et celui-ci est divisé en deux, parce qu'on arrive au milieu d'une frontière, et une partie appartient au Qatar, l'autre à l'Iran. Le vrai enjeu, c'est de l'extraire pour aller l'exporter vers les pays consommateurs et notamment l'Occident, l'Union européenne. Et il y a eu une sorte de rivalité entre l'Iran et le Qatar, chacun voulant créer son propre gazoduc. La version qatari passait par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, et puis après, pourquoi pas la Syrie pour l'extraire. Et la version iranienne passait par l'Irak. Et aussi également la Syrie. Donc on voit bien le rôle clé de la Syrie pour l'extraction de ce gaz-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est que Bachar al-Assad va clairement du côté de l'Iran. Donc tous les projets qataris sont suspendus, ce qui déplaît fortement à l'émir. Et peut-être qu'il faudrait essayer de voir dans ce contexte-là. Ça pourrait peut-être expliquer le rapport de force, en tout cas sur la crise syrienne, et notamment le fait que l'Occident se range du côté du Qatar.
Et l'implication du Qatar dans ce conflit aux côtés des islamistes.
Clairement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout évacuer. C'est, de toute manière, le Qatar arrive à bien placer ses pions au Moyen-Orient et ailleurs partout. Et dès qu'il y a ses intérêts qui sont en jeu, elle arrive à très bien manœuvrer, mais aussi bien même au cœur des chancelleries occidentales, pour essayer de faire valoir ses intérêts. Et là, on voit que ça marche.
Alors, un dernier mot concernant les populations de l'ensemble de ces pays où il y a du gaz. Qu'ont-ils à gagner de l'ensemble de ces tractations et de ces changements de repères?
Si j'étais cynique, je dirais rien, parce que c'est souvent malheureusement les populations de ces pays-là qui n'en profitent pas. On l'a très bien vu en Irak et dans tous les pays qui ont du pétrole, ça ne marche pas toujours comme ça. En réalité, les deux grands acteurs qui sont au cœur de la manœuvre, ce sont les États et les compagnies. Et la population peut en bénéficier dans les pays démocratiques. C'est bien tout l'enjeu des grands débats aujourd'hui en Israël sur la répartition et la redistribution de la richesse du gaz naturel. Où on voit à la manœuvre les gros lobbies gaziers qu'on n'avait jamais vus qui se forment pour justement défendre les intérêts et l'État qui fait voter des lois. Donc en réalité, l'énergie, il y a tellement d'argent en jeu que la population n'est jamais vraiment impliquée et que les conséquences pour elle, on ne le voit pas directement.
Merci David Amselem, chercheur à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8.
Merci.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes maintenant en compagnie de Nerhat El-Matari. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Monte-Carlo Doualia. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, qui se tient comme chaque année un 8 mars, donc aujourd'hui, vous avez consacré l'ensemble de vos émissions de cette semaine aux femmes. Vous avez recueilli une quinzaine de témoignages de femmes et vous mettez l'accent pour nous sur trois pays, la Syrie, l'Irak et la Palestine. Quelle est la situation des femmes dans ces pays?
C'est une situation catastrophique de tout point de vue. De point de vue humanitaire, de point de vue violence contre les femmes. Je voulais qu'elles racontent leurs histoires, leur vécu horrible. Mais il faut parler de ces femmes, de leurs souffrances.
C'est particulièrement vrai en Irak, où la situation des femmes est vraiment difficile.
Oui, il y a un journaliste que j'ai accueilli son témoignage. Il était arrêté pour un crime qui n'est pas commis. Ils l'ont déshabillé totalement devant tous les hommes, attaché les mains. Et avec les cigarettes, tous les jours, elle brûlait partout. Après, il était violé par plusieurs personnes.
Tout ça pour avoir des aveux qu'elle n'a pas donnés.
Oui, et ils ont aussi torturé ses enfants dehors. Et plein des histoires comme ça, horribles.
La Syrie, alors, quelle situation particulière pour les femmes dans ce pays?
Alors, j'ai accueilli plusieurs témoignages des femmes syriennes qui sont réfugiées à l'extérieur de la Syrie et déplacées à l'intérieur de la Syrie. À l'intérieur de la Syrie, c'est une situation très, très difficile. Les femmes, elles n'arrivent pas à manger, ni trouver de travail, ni leur mari. En plus, à l'intérieur de Yarmouk, qui est le camp palestinien, il y a pas à manger. Les femmes, elles voient leurs enfants mourir devant eux. Et une femme qui voulait passer le barrage, le policier ou le militaire, elle demandait « D'accord, je vous laisse passer, mais vous venez ce soir dans mon lit ». Et il y a plus que ça. Mais en 3 minutes, on ne peut pas parler de toutes les souffrances des femmes syriennes.
Alors, en revanche, un témoignage tout à fait intéressant et très fort, le témoignage d'une palestinienne qui a recueilli le corps de sa fille qui avait causé un attentat en Israël.
Oui, il y a 12 ans, Ayat al-Akhras, elle a commis cet attentat à Jérusalem et Israël a refusé remettre son corps à ses parents. Il y a quelques semaines seulement, son corps a été remis à ses parents. J'ai parlé avec sa maman. Elle m'a parlé comment elle a accueilli le corps de sa fille, comment elle a lavé avant l'enterrement. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait maintenant. Qu'est-ce qu'elle voulait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut dire aux femmes? Elle m'a dit, tout ce que je souhaite maintenant, c'est la paix. Et il parlait avec les mères israéliennes. Elle a dit, on veut la paix pour nous et pour eux. Parce qu'eux aussi, ils souffrent. Eux aussi, ils voient leurs enfants mourir.
Alors, dans votre émission, on a bien compris que vous avez recueilli ces témoignages forts de femmes qui ont souffert. Mais heureusement, il y a aussi des femmes qui réussissent au Moyen-Orient.
Il y a des femmes qui souffrent, mais il y a d'autres femmes qui réussissent, mais qui réussissent mieux que les hommes. Il y a le plus influent de monde, c'est Sheikha Lubna Al-Qasimi, le ministre d'économie
des Émirats Arabes Unis.
Il y a le prix Nobel, le yéménite Tawakkul Karman. Aussi, on n'oublie pas cette femme qui travaille aussi pour les femmes dans son pays. Mais je voulais parler de ces femmes ordinaires qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Et elles sont très fortes. Chapeau pour ces femmes. Chapeau.
On peut retrouver tous ces témoignages, Nermat El-Matari, dans votre émission sur Monte Carlo d'Oualia, votre émission qui s'appelle
Hayat Wana, c'est un débat de société.
Un débat de société sur Monte Carlo d'Oualia. Merci.
Merci.
Zeid Hamdan est ce que l'on appelle un homme orchestre, musicien, auteur, compositeur, chanteur. Il dirige également un label de production au Liban. De sa rencontre avec la chanteuse égyptienne Mai Walid est né un album écrit en quelques heures à Alexandrie avec seulement une guitare, un métronome et un logiciel de musique. En voici un extrait avec la chanson « Asafer Bahid ».
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Alexandre, une fois n'est pas coutume, c'est un coin d'Europe qui fait la une de la presse panarabe, plus précisément l'Ukraine, et à ce propos, la presse avance divisée.
Oui, tout à fait. Il y a, pour commencer, les pro-russes, comme dans la presse égyptienne, qui estiment que le Kremlin ne tremble pas de peur après les déclarations américaines selon lesquelles l'ingérence en Ukraine aura un prix. Selon eux, Obama, Barack, ne veut pas et ne peut pas imposer cette menace. Ils l'ont, les Russes, déjà testé en Iran et en Syrie. Quant à l'Europe, elle est économiquement exsangue et ne fait que suivre les Américains. La presse du Golfe est plus mitigée. figée. Elle estime que l'ère du stalinisme est révolue malgré les tentatives de Vladimir Poutine de restaurer une grandeur russe, la grandeur d'antan. Elle estime que Moscou doit prendre en considération l'énorme dette ukrainienne aux banques et à l'État russe, près de 300 milliards de dollars. Une situation économique qui oblige la Russie de ne pas prendre à la légère d'éventuelles sanctions économiques.
La presse israélienne, Michel Paul, revient sur la visite de Netanyahou aux États-Unis et n'hésite pas à parler de ratage.
Oui, la presse israélienne est très critique quant aux résultats du voyage de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Faut remarquer les commentateurs, les journalistes s'intéressaient plus à la crise ukrainienne qu'aux problèmes du Proche-Orient. L'interview accordée par le président Obama à Bloomberg a anéanti tous les efforts israéliens. Par avance, le chef de la Maison-Blanche avait tenu des propos très durs à l'égard de la position du Premier ministre israélien. Face au lobby américain, Netanyahou a trop insisté sur ce qu'un chroniqueur qualifie de « nouvelle loi du talion », œil pour œil et boycottage pour boycottage. Critique aussi à l'égard de sa visite à Los Angeles et ses rencontres avec les vedettes d'Hollywood. Sur le fond du problème, un seul point intéressant, selon le quotidien Israel Hayom, M. Netanyahou revient avec dans ses bagages une esquisse du fameux accord cadre de John Kerry, le secrétaire d'État américain.
Alors dans ce contexte, Michel, que penser de cette opération de la marine israélienne en mer Rouge ?
Presque trop beau pour être vrai. L'arraisonnement du navire Klaus C en mer Rouge par les commandos de marine israélien dans la cargaison du bateau qui battait pavillon panaméen, des missiles pouvant atteindre 200 km de portée en provenance d'Iran et à destination de Gaza selon les autorités israéliennes. Une prise qui tombe précisément alors que le Premier ministre israélien est aux États-Unis et ajoute donc de l'eau à son moulin sur le dossier iranien, affirme les journaux.
Autre sujet largement commenté dans vos journaux, Alexandre Bouchanti, le retrait des ambassadeurs saoudiens, émiriens et bahreïniens du Qatar.
Oui, tout à fait. Et l'occasion pour la plupart des journaux du Golfe, Qatar excepté évidemment, de se déchaîner contre Doha, qualifié d'enfant prodigue impénitent. Les journaux accusent notamment le Qatar de soutenir activement les frères musulmans et les mouvements apparentés qui sont très mal vus dans la plupart des pays du Golfe, mais aussi en Égypte. Alors des journaux qui s'en prennent aussi à la chaîne Al Jazeera, accusés de chercher à semer la discorde dans le monde arabe.
Rien ne va plus dans les services secrets israéliens, Michel Paul.
Grand chamboulement donc pour les services secrets israéliens, le Mossad, le Shin Bet, qui est le service intérieur, et aussi Amman, les renseignements militaires. Pour Maariv, à un moment où les terroristes peuvent préparer leur coup avec de simples smartphones, les services israéliens, eux, sont mal adaptés. Et, rappelle le journal, aucun d'entre eux n'avait réussi à prévoir le printemps arabe.
Alors après la marine israélienne, une histoire d'eau, cette fois au détriment des Palestiniens, Michel.
C'est publié dans Haaretz et nulle part ailleurs. Des dizaines de milliers d'habitants de Jérusalem-Est sont sans eau depuis plusieurs jours en période de canicule inhabituelle ici. C'est le cas notamment des habitants du camp de réfugiés de Chouafat au nord de Jérusalem. Ils ont la malchance d'habiter du mauvais côté du mur de séparation. Du coup, personne ne s'occupe vraiment de leur sort.
Alexandre, à l'occasion de la journée de la femme ce samedi 8 mars, le quotidien Al-Quds Al-Arabi consacre un reportage à la femme syrienne dans la guerre civile.
Oui, et il y a d'abord la femme combattante. Le journal estime à 5000 les femmes qui se sont enrôlées dans la résistance armée à Bachar el-Assad, des femmes parmi lesquelles se trouvent beaucoup d'étrangères selon le journal qui ne précise pas la proportion. Et puis le journal indique aussi que les femmes servent au transport d'armes et de munitions et même d'explosifs pour des attentats comme cela a eu lieu au Liban contre le Hezbollah. Elles sont aussi agents de renseignement, agents recruteurs et via le mariage avec les combattants permettent de relever le moral des troupes, dit le journal. Reste que beaucoup de femmes sont inquiètes par la domination croissante des extrémistes musulmans sur la résistance des islamistes qui pourraient leur imposer la burqa à l'afghane et leur interdire les études et même la vie publique.
On termine, Michel Paul, avec votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo des locaux de la radio-télé publique israélienne. Le ministère des Télécommunications, ici en Israël, a décidé de fermer cet organisme, licencier près de trois quarts de ses employés, pour ouvrir dans un an un nouvel office de radio-télé, mais beaucoup plus restreint.
Merci Michel, merci Alexandre. Un grand salut à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook ou podcaster sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.